une histoire qui parte d'une question, une histoire qui tutoie le passé, une histoire qui questionne les documents.
Le temps de l'histoire, le temps des hommes, le temps de la vie sociale, c'est un temps multiple.
C'est à partir de cette étude des structures sociales de la société d'Ancien Régime que je suis, si je puis dire, entré en révolution.
20 minutes d'histoire.
Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro spécial Semaine du cinéma. Aujourd'hui, j'accueille Vera Léon et Thibaut Becchini, qui a accepté pour l'occasion de passer de l'autre côté du micro. Bonjour donc à tous les deux. Cette semaine, Transistor, avec la collaboration de Champs Libres et En Scène, vous propose une semaine consacrée au cinéma. Nous allons donc parler des rapports qu'entretient le cinéma avec le pouvoir, dans les contextes très particuliers du nazisme en Allemagne et de l'occupation pour la France. Pour commencer, je vous propose d'écouter le début du Juif Zus.
Nach dem höchstschmerzlichen Ableben meines Vetters des Herzogs Eberhard Ludwig ist die Regierung dieses gesegneten Landes an mich gefallen. Und ich will mich in dieser Stunde mit meinem Eid meinem Volk verpflichten. Ich bitte die Landschaft, die Eidesformel zu verlesen. Ich lege zum Zeichen des Eides meine Faust auf die Verfassung dieses Landes.
Wir von Gottes Gnaden, Prinz Karl Alexander, Herzog von Württemberg, kaiserlicher Generalfeldmarschall und vormals Generalgouverneur von Serbien, schwören bei Gott, dem Allwissenden, die allgemeine Wohlfahrt unserer Untertanen mit landesväterlicher Sorgfalt zu unterhalten und zu mehren. Wir gedenken weiter bei unserem fürstlichen Eid darüber zu wachen, dass unsere fürstliche Landesregierung in allen Punkten und ohne Falsch nach der alten württembergischen Treue und Redlichkeit handeln wird. Insbesondere verpflichten wir uns, der Verfassung treu zu bleiben und getreu nach dieser Verfassung mit der Landschaft gemeinsam die Regierungsgeschäfte zu führen.
Ich schwöre es.
Film réalisé par Veit Arlan en 1940, la réalisation aurait été supervisée par Goebbels et met en scène un discours clairement antisémite. Alors comment sont produits les films dans cette période-là, sous la propagande nazie et sous l'occupation? Les réalisateurs, par exemple, quelles sont les relations qu'entretiennent les réalisateurs avec le pouvoir?
C'est bien sûr, ces rapports qu'entretiennent les réalisateurs avec le pouvoir sont loin d'être uniformes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, par exemple, il n'y a pas du tout autant de films de propagande, directement de propagande, c'est-à-dire commandités directement par des nazis, comme on pourrait le croire. Et au contraire, en fait, les nazis, notamment au début au moment de leur arrivée au pouvoir, sont prêts à ne pas faire appel, notamment Hitler est prêt à ne pas faire appel à la section spécifiquement cinématographique qui est dédiée dans le parti nazi, mais plutôt à faire appel à des grands noms, quitte à ce qu'ils soient moins directement dans la ligne du pouvoir. On peut penser par exemple à l'appel à la cinéaste qui est déjà assez connue à ce moment-là, même au niveau international, Leni Riefenstahl, pour le documentaire Victoire de la foi. Mais en même temps, bien sûr, le contrôle est fort. D'abord, beaucoup de réalisateurs vont s'exiler. Et du coup, des figures de second rang vont prendre leur place. Et puis également, quelques films sont, très directement de propagande, et même d'une propagande extrêmement violente. On peut penser au Juif éternel, mais également au Juif Zus, donc, que tu viens de citer. Au scénario antisémite, qui effectivement, comme tu l'as dit, a été approuvé par Goebbels à un moment crucial. Puisque c'est le moment où d'abord aux États-Unis et en Angleterre et dans le monde occidental, le dictateur de Charlie Chaplin a un succès énorme. Et également au moment où, dès le 30 janvier 1939, Hitler dit au Reichstag vouloir anéantir les Juifs. Donc c'est une mise en scène qui a très directement rapport avec le contemporain. Et en particulier, par exemple, avec des scènes de masse qui acclament le souverain, avec des soldats prussiens, enfin tout ça, ça fait partie directement de représentation du pouvoir qui vont dans le sens de l'idéologie nazie.
Pour ce qui est de la France, donc avant même la période d'occupation, à partir du moment où la France entre en guerre, Il y a la mise en place d'un commissariat général à l'information qui va contrôler les diffusions cinématographiques avec des premières mesures qui sont prises dès septembre 1939. Et on interdit à ce moment-là, dès l'automne 1939, les films de guerre, les farces militaires, enfin tout film jugé immoral et démoralisant pour la jeunesse. C'est par exemple le cas du Quai des Brumes de Marcel Carnet. Et ensuite, au moment de l'occupation, donc à partir de juillet 1940, il y a une véritable mise sous tutelle du cinéma français par les autorités d'occupation allemande. Mise sous tutelle qui est orchestrée par l'ambassade d'Allemagne et l'Institut allemand de Paris, qui s'occupe des questions de politique culturelle, des films et de la production de films de propagande destinés aux Français. Et en même temps, il y a un bureau central qui coordonne l'ensemble de la propagande cinématographique. Donc c'est le service du cinéma de la propaganda Abteilung qui s'occupe de ça. Pour ce qui est des exils, il y a dès l'automne 40 une épuration de la profession avec beaucoup de cinéastes qui sont interdits de produire parce qu'ils sont juifs, qui se replient dans un premier temps en zone libre et qui très souvent cessent de produire durant toute la période d'occupation. D'autres cinéastes, pas nécessairement juifs d'ailleurs, font le choix de s'exiler aux États-Unis. C'est par exemple le cas de Jean Renoir ou de René Clair.
Et donc, en termes de production dans cette période, ça représente par exemple combien de films, si on en a une idée, qui auraient été donc aidés soit par le pouvoir nazi, soit par l'occupant. Et puis, donc, oui, la question directement des financements, parce que par exemple, la Continental Film est une société de production allemande qui a notamment produit Clouseau. Donc, comment est-ce que ces films-là, s'il n'y a pas une propagande directe, en tout cas, comment est-ce qu'ils sont liés au pouvoir dans leurs conditions de création ?
Du côté de l'Allemagne, il y a 1094 films donc, qui sont décomptés comme étant produits donc, entre 1933 et 1945. Et il faut savoir qu'en fait, dès 1927, le parti nazi s'érige déjà en producteur par le biais donc, d'une société de production qui produit donc déjà des films, puisqu'il y a vraiment un intérêt immense pour cet art populaire en plein essor qui est déjà perçu comme vraiment un moyen de manipuler les masses. Et dès 1930, en fait, il va y avoir une organisation qui va regrouper tous les acteurs du secteur, qu'ils soient nazis ou pro-nazis. Et les spécialistes soulignent qu'il y a une convergence d'opportunités entre le parti nazi et en particulier la figure de Goebbels, donc qui est ministre de la culture, de l'information et de la propagande, et l'industrie cinématographique allemande, qui va complètement aller dans ce sens-là, donc dans le sens de l'opportunisme. Et dès 1933, juste après l'arrivée au pouvoir, cette convergence peut se lire directement dans un fait qui est qu'un film, donc seulement 7 mois après l'arrivée au pouvoir de Hitler, un film justement de cette société de production va pouvoir sortir en salle, un film de propagande qui s'appelle « Le jeune hitlérien Kfex ». Et donc il montre bien cette colocation des deux. Et donc c'est vraiment cette chambre nationale du film qui va mener son contrôle vraiment sur toute la chaîne de fabrication des films, de l'écriture du synopsis jusqu'à l'exploitation commerciale en salle, et qui va donc marquer donc la mainmise sur les deux grands pôles qui étaient auparavant sous la République de Weimar, ceux de la production cinématographique, à savoir l'UFA et la Tobis, donc qui sont ces deux grandes sociétés de production.
Pour ce qui est de la France, il faut avoir à l'esprit qu'avant même l'entrée en guerre, le cinéma français était en crise, puisque beaucoup de films étrangers étaient inondés les salles de cinéma françaises, alors que peu de films français étaient diffusés à l'étranger. Donc il y avait déjà une crise de la production française avant même l'entrée en guerre. Par exemple, pour avoir un ordre d'idée, de 37 à 40, la France produit 339 films, alors que dans le même temps, l'Allemagne en produit environ 600. Pour ce qui est des financements, c'est très difficile de chiffrer véritablement la production cinématographique durant l'occupation, parce que elle s'inscrit dans la continuité de cette crise du cinéma français à la veille de la guerre. Pour ce qui est de la question des financements, il faut avoir à l'esprit donc la loi du 19 mai 1941 qui place l'État comme créancier de la production cinématographique, puisque avec l'objectif de moraliser le financement des films, Vichy met en place un comité d'attribution des avances du cinéma qui est censé stimuler la production française. Et par ce truchement, donc en 1941-1942, sont produits 13 films qui relèvent directement donc, de financement étatique. Et parallèlement, ben, comme tu l'as dit Caroline, il y a aussi la Société Continentale, donc firme de production allemande qui s'établit également à Paris et qui entre en possession d'un réseau de salles parmi les mieux achalandées de la capitale, profitant notamment donc, de la fermeture des salles qui étaient tenues par des juifs et qui assure la production d'à peu près 15% des films français produits pendant l'occupation, et notamment des films de Clouzot ou de Fernandel.
Donc par ces financements et par ces sociétés de production, si je comprends bien ce que vous dites, c'est surtout une arme nazie, en tout cas, enfin peut-être une arme, c'est peut-être fort, mais en tout cas c'est surtout un biais d'entrée des nazis dans le cinéma et donc un moyen d'expression de leurs idées. Mais est-ce qu'il y a eu aussi une intervention plus directe et enfin si on peut dire que le financement c'est une intervention en amont, est-ce qu'il y a eu une intervention en aval sous le par exemple avec une censure de certains films? Thibaut, tu parlais par exemple de Quai des Brumes. Est-ce qu'il y a eu une censure, pour quel motif?
Je suis pas tout à fait d'accord avec le biais d'entrée pour de l'idéologie nazie dans le cinéma par le biais des financements, parce que en ce qui concerne la production française, c'est pas tant l'idéologie nazie qui va transparaître dans les films qu'une idéologie moralisante qui relève davantage de la propagande vichyste que de la propagande nazie. Même dans les films qui sont produits en France par la Société Continentale, parce que les films de Clouzot ou de Fernandel ne se rattachent pas du tout à l'idéologie nazie.
Mais la force financière est quand même plus du côté de l'Allemagne.
La force financière est plus du côté de l'Allemagne, mais il y a aussi quand même, avec ce comité d'attribution des avances du cinéma dont je parlais tout à l'heure, un poids financier vichyste. Pour ce qui est...
De la censure, donc,
oui, de la
notamment
censure.
Du Quai des Brumes.
Le Quai des Brumes, il est censuré même avant l'occupation par la Troisième République finissant, qui estime que c'est un film qui va démoraliser la jeunesse française. Après, pendant l'occupation, il y a plusieurs modalités de censure. Parce qu'il faut avoir bien se souvenir qu'on a une zone libre et une zone occupée. Dans la zone libre, qui relève du ressort de Vichy, il y a une commission consultative qui siège à Vichy, qui délivre des visas de production, d'exploitation et d'exportation. L'écrivain Paul Morand en a notamment été président quelque temps. Et en zone occupée, il y a la censure directe des autorités allemandes. Et ces deux censures vont être en conflit permanent durant toute la période d'occupation, jusqu'à ce que la zone libre soit elle-même occupée en 42. Conflit permanent, même si on assiste peu à peu à une unification du marché cinématographique en France dès février 41, puisqu'il y a un accord qui est passé entre les autorités allemandes et Vichy qui assure le libre passage entre les zones occupées et libres des films français et allemands. Même si les autorités françaises entendent rester maîtresses de la législation qui concerne le contrôle des films, ce que les Allemands, bien entendu, supportent assez mal.
Mais est-ce que, justement, cette censure et en amont les financements apportés par des sociétés de production font que presque tous les films produits sont le fait de réalisateurs qui soutiennent soit l'idéologie vichyste, soit l'idéologie nazie? Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que c'est abusif?
Pour les réalisateurs, enfin peut-être que je laisse faire.
Non, vas-y.
Mais pour les réalisateurs français en tout cas, il y a deux possibilités qui s'offrent à eux. Soit se conformer plus ou moins ouvertement à l'idéologie du régime de Vichy, ou se réfugier dans l'étranger ou le fantastique. Par exemple, c'est le cas de Marcel Carné qui va faire pendant la guerre un de ses grands chefs-d'œuvre, donc Les Visiteurs du Soir. Il y a d'autres réalisateurs qui se réfugient eux aussi dans le fantastique. Par exemple, Marcel L'Herbier propose un film qui s'appelle La Nuit Fantastique. Jean Delannoy réalise L'Éternel Retour. Et il y a aussi la possibilité de faire œuvre historique ou pseudo-historique. C'est par exemple Sacha Guitry qui va réaliser Le Destin Fabuleux de Désiré Clary, ou Marcel Carné, encore une fois, qui, avec Les Enfants du Paradis, fait une œuvre pseudo-historique détachée de de toute allusion contemporaine, ce qui lui permet de retrouver une force créatrice qui aurait été peut-être entravée si c'était tenu à une production juste dictée par Vichy.
Et en Allemagne, est-ce qu'on a cette même forme de résistance ou en tout cas de détournement par rapport à la censure ?
Oui, alors du côté nazi, c'est sûr que bon, il n'y a pas uniquement des films, comme on le disait, qui sont pro-nazis explicitement. Mais bon, il y a quand même cette en amont, comme tu disais, il y a cet exil d'énormément de réalisateurs. Et parmi les plus talentueux, qu'ils soient juifs ou non juifs, mais souvent pour leur origine juive, on peut penser à Fritz Lang, par exemple, également à l'Autrichien qui a très longtemps travaillé en Allemagne et qui va s'exiler aux États-Unis pour y connaître un grand succès, Billy Wilder, donc qui va devenir Billy Wilder. Et enfin, mais parmi d'autres exemples, puisqu'ils sont très nombreux, on peut penser à Max Ophüls qui va lui aussi prendre le chemin de la France. Jusqu'à ce que Vichy, jusqu'à ce qu'il s'exile à nouveau du régime de Vichy pour partir aux États-Unis, même s'il reviendra ensuite dans l'après-guerre en Europe. Et donc voilà, donc il y a clairement par cet exil une contrainte qui fait que les films, enfin les réalisateurs qui vont rester en Allemagne vont quand même être plutôt ceux qui sont dont les films vont être visés par le pouvoir, vont être
Alors, pour affiner un petit peu donc notre étude de ce cinéma dans ce contexte à la fois de l'Allemagne nazie et de la France sous occupation, je vous propose d'écouter un petit extrait du Corbeau, donc film de Clouzot, datant de 1943.
Depuis qu'il souffle sur la ville un tourbillon de haine et de délation, toutes les valeurs morales sont plus ou moins corrompues. Vous êtes atteint comme les autres.
Tu es lâche. Tu es faible. De nous deux, c'est toi la grue. Mais ça m'est égal, je ne céderai pas.
Là, vous commencez à m'inquiéter.
Avec ce nouvel extrait, on voit donc que Clouzot, quand il essaye de traiter, d'ancrer son film dans la période actuelle, ce n'est pas tant les représentations du pouvoir qu'il va rechercher, et notamment par exemple une représentation du pouvoir Vichy ou quelque chose comme ça, mais il va essayer de peindre la société et d'en peindre donc les travers moraux bien plus que les travers politiques. Alors, que peut-on dire justement au cinéma, dans ce contexte de guerre et d'autoritarisme, de quoi parlent vraiment les films de cette époque-là ? Finalement, est-ce qu'on est centré sur ce qui est en train de se passer ?
Parmi ces films, il est clair que peu de films sont directement, comme on le disait, de propagande. Une immense majorité, en réalité, des films sont des films assez distrayants. Souvent des comédies, comme en France d'ailleurs, également de nombreux films historiques en costume, avec un grand goût pour des situations souvent assez conformistes, des idées reçues qui vont conforter des préjugés sur les Anglais, sur les Français, etc. Et donc voilà, il y a quand même une majorité de films qui ne sont pas des films, par exemple, de guerre, ou qui ne sont pas des films directement antisémites, mais plutôt qui prennent des moyens détournés, même si on peut vraiment lire une sorte d'accroissement de ce genre des films de propagande, puisque le contrôle lui aussi va se faire croissant entre le début des années 30, bien sûr, et puis les films de 1940 en pleine annexion de la Pologne, et ensuite en pleine guerre contre les Français, évidemment.
Oui, et je rajouterais que donc le public a vraiment envie de s'évader, mais en même temps, il n'y a pas nécessairement d'allusion implicite à une attitude de résistance. Même, il n'y a presque pas de film qui évoque une attitude résistante et qui la présente comme étant une possible issue. Au contraire, les films fuient la réalité quotidienne, et ça a été très bien analysé par Jean-Pierre Bertin-Magui, dans son livre sur le cinéma pendant l'occupation, où il montre que sur 130 films qu'il étudie, 7 se réfèrent à la guerre, 25 se réfugient dans le passé, et les 98 autres traitent d'une période contemporaine imprécise, où souvent, dès le générique, on a une image ou un texte qui peuvent exprimer clairement le rêve. C'est par exemple le cas d'un film dont on se souvient plus du tout maintenant, qui s'appelle Le Club des Soupirants, qui commence par ces mots: il était une fois dans un pays heureux. Voilà, donc une réalité contemporaine qui ne correspond pas du tout à ce que vivent les gens au quotidien.
Oui, non, ce que je voulais ajouter également à cette immense majorité de films d'Istrian, c'est aussi ce qu'on a redécouvert, l'importante production documentaire sous la période nazie, donc pour le coup essentiellement commanditée encore par le parti. Et on peut dire, les études notamment de Christian Delage sur la question dans le cadre de sa thèse montrent que ce cinéma a une immense importance auprès du public et que son impact est peut-être même plus grand que ceux de films, soit de propagande, soit évidemment plus apparemment inoffensifs comme des comédies, et qu'ils sont encore plus travaillés par l'idéologie. Puisque finalement il y a une sorte de mystification, ces documentaires semblent vraiment le reflet de la réalité contemporaine ou de la réalité du parti, de la réalité de l'Allemagne de cette époque. Et en réalité, évidemment, il est travaillé tout au moins autant que dans des films de fiction, dans son montage, dans sa mise en scène, dans ses décors. Et que donc il y a véritablement une construction idéologique par le documentaire dans le cinéma nazi, qui est évidemment très flagrante dans les films de Leni Riefenstahl, mais également dans beaucoup d'autres qu'aujourd'hui, qui sont moins connus aujourd'hui, mais qui à l'époque ont marqué les mentalités.
Et donc quand même, Vera, quand le nazisme est représenté, ou quand la guerre en tout cas est représentée, Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que le réalisateur va chercher? Ou en tout cas, enfin, je sais pas si c'est le réalisateur particulièrement, mais en tout cas, qu'est-ce que ces films portent et disent du nazisme?
Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a assez peu d'auto-représentation, en tout cas si on exclut le documentaire, qui lui, par contre, se concentre souvent sur la représentation du parti, des surhommes que sont censés être les SS ou les SA. On a assez peu dans les films de fiction de représentation vraiment du pouvoir nazi. En revanche, donc, de représentation sociale et morale beaucoup plus. Même si on peut dire qu'il y a une limitation de la haine, de l'incitation à la haine raciale, etc. Mais pas uniquement raciale, également contre les handicapés, également contre les homosexuels, par l'image, puisqu'il y a une sorte de pudeur qui peut s'exprimer dans ces images par rapport à des textes. L'image étant, par la monstration de corps et de visage étant bien sûr marquante pour le spectateur et qui peut-être on peut, enfin en tout cas si on suit les études de Siegfried Krakauer, donc qui était allemand exilé aux États-Unis, on peut dire qu'il y a finalement qu'il y a une sorte de étant donné qu'on n'arrivait pas à montrer la supériorité justement dans les images de la doctrine raciale et des surhommes, finalement on se reporte sur la dénonciation de leur envers maléfique, c'est-à-dire les juifs, etc., le contraire des ariens, et que finalement ce récit filmique, les récits filmiques qui sont racontés ne peuvent pas porter atteinte à la dignité humaine autant que les discours nazis peuvent le faire directement, puisqu'ils suscitent une gêne en fait auprès des spectateurs. On a par exemple des échos de la sortie en salle du Juif éternel, qui montre des femmes, des enfants et des hommes, des femmes, des enfants juifs dans des ghettos qui sont en proie à la faim et à des scènes extrêmement misérables. On sait qu'il y a eu une véritable gêne des spectateurs et que donc finalement les films eux-mêmes portent leurs propres limites en eux, et que finalement dans le cinéma nazi, même dans le cinéma nazi, il y a une sorte de tabou sur les actions anti-juives, sur la stérilisation, sur les camps de concentration, qui sont des choses immontrables finalement et qui donc résistent obstinément à une représentation visuelle.
Vous nous avez dit qu'il y avait beaucoup de divertissement dans les productions donc cinématographiques, mais les gens allaient-ils beaucoup au cinéma? À en croire les souvenirs que Truffaut évoque dans Le Dernier Métro, qui est un film bien postérieur à la période puisque datant de 1980, la vie culturelle est assez foisonnante. Écoutez plutôt.
Je les entends, Marion. Je les entends. Tu entends? Je ne comprends pas comment tu fais pour manger. Moi, je ne pourrais pas.
Mais si tu peux, tiens.
Non, 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 je t'assure, je ne peux pas. Je ne pense qu'à une chose. Qu'est-ce qui arrive si c'est la catastrophe ce soir?
Eh bien, on monte une autre pièce.
Avec quel argent, dis-moi? Avec quel argent? Tu as vu le compte? Moi, je les ai regardés. S'il a disparu, se casse la gueule, on perd le théâtre. C'est épouvantable. Et moi, je ne comprends pas comment tu fais pour rester calme.
Écoute, Luca, tu as choisi la pièce. Tu as choisi la façon de la monter. On a suivi toutes tes indications. C'est ton travail que les gens vont voir ce soir. Et si ça ne marche pas...
Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce sera ma faute, mon unique faute, ma très grande faute. N'empêche que ce sera la merde.
Tiens, bois un peu.
Vraiment, je ne sais pas comment tu fais. Je ne tiens même plus debout. J'ai ma barre ventre.
Écoute, reste tranquille. Attends, prends une couverture pour te réchauffer le ventre. Assieds-toi.
Merci.
Voilà. Il faut que j'y aille. Tu écoutes bien, tu me diras tout, hein?
Oui.
Tout à l'heure.
Bon, je pense que c'est Marc qui devrait te rassurer.
Mais tu n'as pas besoin de me rassurer. Je me sens légère comme un pinceau.
C'est la scène donc de la première représentation de la pièce dont Marion Steiner se préoccupe tout au long du film, alors justement que l'occupant s'installe à Paris et que son mari juif allemand, donc interdit de d'activités culturelles, se réfugie dans les sous-sols du théâtre. Alors, comment le public reçoit les films sur le moment et est-ce que ces films sont beaucoup vus?
Dans le cas de la France, on assiste à une double mobilisation des spectateurs, à la fois contre la propagande de l'occupant, les films de propagande sont assez mal reçus, et en même temps contre la moralisme de certains films. C'est-à-dire que les spectateurs français cautionnent dans une certaine mesure les films qui relèvent du moralisme vichiste. Et qui relèvent du moralisme vichiste, ou qui justement proposent une évasion dans un monde... meilleur, coupé des réalités quotidiennes, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Pour ce qui est de la fréquentation des salles de cinéma, on s'aperçoit qu'en 1941, alors que les Allemands tentent de contrôler la diffusion de films de manière à ce que ce soit essentiellement des films allemands qui passent en salle, les Français ne s'enthousiasment plus guère pour le cinéma. Alors qu'en 1942, avec la reprise des productions françaises grâce au financement de Vichy, l'affluence du public dans les salles s'accroît, et ce, malgré une augmentation de 25% du prix des places qui a lieu au cours de cette même année 1942. Et donc on observe, entre 1941 et jusqu'en 1943, progressivement, une diminution du nombre de films allemands diffusés en France, d'abord 43% en 1941, puis pour tomber à 23% seulement en 1943, parce que le public français n'était pas du tout sensible à ces films d'outre-Rhin qu'on essayait de leur imposer. Les seuls films allemands qui connaissent un véritable succès en France, ce sont La Ville Dorée et Le Juif Zus, dont Vera a déjà parlé.
Oui, si je peux rebondir sur ça, c'est vrai que même en Allemagne, par exemple, où la production est très florissante et où tous les spécialistes, même de l'époque, s'accordaient pour dire que vraiment il y avait un cinéma sous Weimar qui était d'un renouveau extraordinaire en Europe, on a toujours en 1939 un film sur cinq qui sort en salle qui vient des États-Unis. Malgré le protectionnisme allemand, malgré le nationalisme nazi et la volonté de ne pas dépenser ses devises pour du cinéma. Et donc non seulement un film sur cinq qui vient des États-Unis, mais deux films sur cinq qui sont encore d'origine étrangère. Donc on voit qu'il n'y a pas un aboutissement total de ce nationalisme cinématographique, si on peut dire. Voilà.
Et peut-être, est-ce que la presse se fait le relais du cinéma, notamment je pense en France, en particulier à des grandes revues qui ont marqué l'histoire de la collaboration, comme Je suis partout. Est-ce qu'on a là un soutien donc au cinéma vichiste, ou alors est-ce qu'on a un soutien au cinéma nazi?
Oui, enfin, Je suis partout, ou d'autres revues comme le Au Pilori ou La Gerbe, qui, dès 1940... publient des textes de cinéastes qui dénoncent par exemple les origines juives de leurs confrères. Donc ça a pu jouer dans ce sens. On a également les émissions radio de Radio Paris qui vilipendent les juifs dans le cinéma et qui tentent de proposer un renouveau de la production qui va de pair avec tout ce qu'il y a autour de la Révolution nationale proposée par Vichy, par exemple.
Je sais bien que je vous agace, mais je suis votre plus vieil ami. Et si vous vous taisez, je vous parle. Hélène, vous avez tout lâché, tout sacrifié pour un amant qui ne vous aime plus.
Jean m'adore, et je l'adore.
Vous savez très bien ce que je veux dire. Observez-le comme je vous observe. Il n'y a pas d'amour, Hélène. Il n'y a que des preuves d'amour.
Nous venons d'entendre un extrait des Dames du Bois de Boulogne, d'Henri Bresson, film sorti en 1945, mais commencé pendant la guerre. Alors parlons maintenant de l'immédiate après-guerre, justement, et en particulier dans le contexte français. Alors que se passe-t-il pour les réalisateurs et les acteurs qui ont tourné pendant la Deuxième Guerre mondiale et donc sous Vichy?
Avant de parler des Dames du Bois de Boulogne, on pourrait peut-être revenir sur Le Corbeau, dont on a diffusé un extrait tout à l'heure, puisque c'est un film qui peint une atmosphère lourde, qui sert de peindre l'atmosphère d'une vie médiocre, ralentie, dans une ville de province, pour dénoncer la mentalité paperassière, les rouages administratifs usés et inefficaces de la France, et qui essaie de restituer le climat délétère qui aurait conduit à la défaite de 1940. Et la lecture du film, donc film de Clouzot qui va être faite à la Libération, c'est une lecture qui va être très défavorable à Clouzot, puisque l'ensemble du monde du cinéma, l'ensemble de la profession, juge Clouzot coupable d'avoir réalisé un film de propagande contre la France, en peignant une France au climat délétère, et comme si, en filigrane, était souhaitée l'arrivée de l'occupant allemand pour rétablir l'ordre. Donc Clouzot aura des démêlés avec les comités chargés de l'épuration à la Libération pour ces motifs-là. Sacha Guitry en aura également parce qu'il a travaillé à la Continentale, donc cette firme de production allemande qui s'est établie en France pendant l'occupation. Pour ce qui est des Dames du Bois de Boulogne, c'est un film intéressant parce que effectivement c'est un film qui commence à être tourné à la fin de l'occupation. Durant le premier semestre 44, à une époque où il est de plus en plus difficile de tourner parce que il y a des studios qui sont bombardés, il y a des restrictions d'électricité, et le film est mis en chantier et est interrompu durant l'été 44, puis il est achevé à l'automne 44 et sort en 45. Et c'est intéressant parce que justement on peut vraiment voir dans les Dames de Bois de Boulogne une sorte de film pivot, puisqu'on a à la fois une partie du film qui est réalisée pendant l'occupation et l'autre à la Libération. Et ce film pivot, Noël Burch et Geneviève Cellier, dans leur livre « La drôle des guerres des sexes du cinéma français », y voient le basculement, un basculement très intéressant dans la représentation des figures féminines, telles qu'elles étaient représentées dans le cinéma d'occupation et telles qu'elles le seront désormais à partir de la Libération. Puisque dans Les Dames du Bois de Boulogne, on a une tension tout au long du film entre les velléités d'émancipation d'une jeune fille donc, qui s'appelle Agnès et le respect de l'ordre patriarcal qui est incarné par sa mère et par les femmes plus âgées. Et cette tension traduit assez bien ce basculement dans les représentations qui est consécutif donc, à la Libération.
Et donc, oui, on a bien une inversion de la réception et finalement un changement radical dans l'histoire de ces films, puisque de grands chefs-d'œuvre de guerre, enfin, en tout cas pendant la période de guerre, ils vont devenir, au moins pendant quelques temps, les bêtes noires du cinéma français.
Oui, disons que certains cinéastes ne produisent plus pendant plusieurs années, mais... Pour ce qui est, toute la question de la réception est très intéressante parce que le film de Clouzot aujourd'hui, justement, suscite des lectures qui sont complètement erronées. Alors qu'à la Libération, on lit son film, donc où il est question de lettres anonymes, d'où le titre Le Corbeau, on lit son film comme de la propagande anti-française. Aujourd'hui, on pourrait tenter d'y voir dans ce film une dénonciation de la part de Clouzot de tout ce qui touche à la délation, et donc une dénonciation anti-vichiste. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, et c'est pourquoi il faut toujours bien resituer les films dans le contexte où ils ont été réalisés, dans le contexte où ils ont été reçus et diffusés pour la première fois.
Oui, c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, le Juif Sus est extrêmement difficilement montrable. Il a été interdit en Allemagne jusqu'aux années 1990. Et aujourd'hui, c'est un film qui peut, dans ses rares apparitions, apparaître donc éventuellement dans des musées sur le nazisme ou alors dans des colloques sur le national-socialisme, mais qui n'a plus aucune effectivité, on va dire, esthétique ou de validité auprès des cinéphiles, alors même que c'est un film qui est très travaillé, qui a un budget de 2 millions de marques, de Reichsmark à l'époque, etc. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une importance du contexte historique dans leur perception.
Et si c'est possible, j'aimerais finir avec une citation de François Garçon, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle donc De Blue Blanc-Pétain, Cinéma et Société Française, 1936-1944, et qui montre justement l'importance de l'occupation dans le renouveau du cinéma français. Il parle notamment donc de l'épuration de la profession à partir de 1940, qui permet à toute une génération de jeunes cinéastes de signer leur premier long métrage durant l'occupation. Donc je lis la citation. « Profitant du vide ainsi laissé, toute une génération saisit sa chance et entre en lice. Née pour la plupart entre 1900 et 1920, ils vivaient jusqu'alors parfois comblés, mais dans l'ombre des géants, comme assistants et toujours relégués au deuxième plan des génériques. » Et donc cette génération, c'est par exemple celle de Robert Bresson, de Georges Clouzot ou de Jacques Becker, qui deviennent les vedettes de la réalisation du cinéma d'occupation et qui entament véritablement leur carrière pendant les années 40.
Eh bien, merci beaucoup donc Thibaut et Vera. On se quitte donc sur cette dernière citation qui montre bien toute la complexité des enjeux, puisque donc les notions de propagande et de censure ne permettent pas d'expliquer toute l'histoire du cinéma, donc à la fois sous l'Allemagne nazie et dans la France occupée. Mais bien chers auditeurs, je dois dire que l'émission est déjà finie. J'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à écouter les autres émissions spéciales. N'oubliez pas les trois projections de cette fin de semaine. Hollywood Ending de Woody Allen, ce soir mercredi en F08 à 20h. Demain jeudi, l'incontournable Good Morning England de Richard Curtis au Théâtre Cantor à 20h. Et vendredi, Mulholland Drive de David Lynch à 20h dans l'amphi Schrödinger, donc sur le site Mono. Enfin, pour le plus festif, Transistor, Champ Libre et en scène vous propose une soirée Stereo Night en festive à partir de 22h30.